Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un journaliste spécialiste du Sahel et de l'Afrique, Rémi Carayol, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, je vous reçois pour le Mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après, édité dans Cahiers Libres à la découverte. Voilà, donc c'est un livre récent et nous allons parler donc des guerres en Afrique menées par la France. Alors voilà ce que vous dites dans votre livre en introduction. La guerre des illusions, les Français ont-ils leur mot à dire sur l'action de leur armée à l'étranger? Doivent-ils être tenus informés quand les soldats français tuent des civils à quelques milliers de kilomètres de chez eux? Doivent-ils exiger, lorsqu'une opération militaire bafoue les droits élémentaires, que les responsables politiques en répondent? Autrement dit, la guerre relève-t-elle de la chose publique ou s'agit-il d'un domaine réservé au cercle du pouvoir? Dans un pays comme la France, qui se flatte de compter parmi les démocraties avancées et qui a participé et participe toujours à d'innombrables conflits armés, notamment sur le territoire de ses anciennes possession coloniale, ces questions essentielles devraient être débattues publiquement. Mais il n'en est rien. La guerre est apparemment une chose trop sérieuse pour laisser au peuple le droit d'en décider. Rémi Carayol, pourquoi cette introduction cache?
Parce que c'est l'esprit qui a l'idée à la publication, à l'écriture d'abord et ensuite à la publication de cet ouvrage. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je suis cette guerre, puisqu'il a débuté il y a 10 ans, cette intervention militaire française. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, non seulement que la plupart, la grande majorité des Français ignoraient ce qu'il se passe sur ce théâtre d'opération, mais aussi qu'il y avait une sorte de déni démocratique, dans le sens où jamais la question à la fois de l'intervention en tant que telle, mais aussi des méthodes employées par l'armée dans cette intervention militaire, n'était questionnée. Jamais on interroge, on ne pose ces questions, pourquoi on est en guerre dans cette zone, contre qui, quelles sont les méthodes que les soldats français emploient, quelles sont les fautes qu'ils commettent. Jamais ces questions ne sont débattues et que ce soit par les médias ou par les parlementaires, très peu posent les questions qui fâchent à l'exécutif qui est maître de la chose.
Alors, est-ce que ça tient au fait que nous avons un président qui est un monarque républicain et qui est commandant en chef des armées?
En grande partie, oui. La Constitution, en gros, donne carte blanche au chef de l'État, qui est aussi donc le chef des armées, à la fois pour déclencher une opération militaire et puis ensuite pour la mener à sa lise. Les textes de la Ve République sont clairs à ce niveau-là et les parlementaires n'ont que très peu de droits de regard sur les interventions armées. À titre d'exemple, lorsque l'opération Serval est déclenchée donc il y a 10 ans, l'obligation qui est faite au président de la République, c'est d'abord uniquement d'en informer le Parlement, uniquement en informer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote. Et au bout de 4 mois, il y a un vote organisé au Parlement. Les parlementaires doivent dire si oui ou non on continue cette opération.
Les parlementaires réunis en congrès à Versailles.
Tout à fait. Et évidemment, ce dispositif ne permet pas vraiment que les parlementaires s'opposent à une guerre. Quand on vient de déclencher une opération, d'envoyer des milliers de soldats sur un théâtre d'opération, certains ont pu déjà y mourir. Il est très difficile pour les parlementaires, forcément, de s'opposer à une guerre si peu de temps après l'avoir déclenchée. Dans d'autres pays, l'exécutif doit avoir l'aval du Parlement avant de déclencher une opération militaire. En France, c'est le contraire qui se passe.
Alors, dans les premiers chapitres de votre livre, vous expliquez le logiciel des militaires. Le logiciel mental des militaires est « on ne peut plus dépasser ». Il y a un chapitre qui s'appelle très précisément après les repères chronologiques, c'est « ton papa Hollande et tonton Lyoté ». Gallieni et Lyoté sont des valeurs du 19e siècle qui sont recyclées en permanence par les militaires français. Et ils l'ont été parce que les Américains les ont recyclées en fait avant eux. Et comme les militaires français sont en admiration devant ce que font les Américains, donc ça les a décomplexés. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à mes auditeurs?
Oui, en fait, donc Lyoté et Gallieni sont deux officiers qui, on va dire, ont joué un rôle très important dans la colonisation, notamment sur le continent africain, et qui ont développé en fait une théorie qu'on pourrait résumer par une expression qui est assez connue, c'est « gagner les cœurs et les esprits ». L'idée était à la fois de conquérir par la force, mais aussi en essayant, non pas de convaincre les populations que la France était un bienfait pour elles, mais en tout cas de leur faire comprendre ou leur faire croire qu'il y avait quelque part un intérêt à ce qu'ils s'allient à la France. Ces officiers ont joué donc un rôle très important durant la conquête coloniale et il faut savoir que la région saharo-sahélienne occupe une place très importante dans l'histoire de la conquête coloniale parce que de nombreuses victoires de l'armée française sont encore aujourd'hui célébrées au niveau de l'institution dans cette région-là. Ils ont un temps disparu, en fait, après la guerre d'Algérie.
Ah oui, qu'ils ont perdu, il faut le dire.
Ils ont perdu.
Après avoir perdu l'Indochine.
Voilà. En fait, c'était très mal vu. L'exécutif, le pouvoir politique, s'est quelque part émancipé de l'influence que pouvait avoir le pouvoir militaire et les militaires qui pour certains, avaient quand même tenté un coup d'État, elles s'étaient opposées au général de Gaulle, étaient désormais quelque part dans le petit soulier, ils devaient un peu se taire. Mais par contre, au sein de l'institution, tout ce passé-là est toujours célébré, sans cesse. Ils sont revenus en odeur de sainteté, ces officiers, effectivement, à la faveur, en fait, de la guerre contre-terroriste des États-Unis, guerre contre-terroriste, j'emploie les guillemets, des États-Unis, en Irak, en Afghanistan, où, en fait, dans les années 2000, les officiers américains se sont rendus compte qu'il y avait des choses intéressantes à tirer des théories développées par Lyoté, Gallieni et tous ces officiers français durant la conquête coloniale, de ce qu'on appelle la contre-insurrection. C'est à ce moment-là que les Français se sont dit, tiens, mais on va quand même revisiter nos gloires d'antan et on va les ressortir quelque part des placards. Et aujourd'hui, on se rend compte, notamment avec cette guerre-là au Sahel, que non seulement un grand nombre d'officiers français citent en exemple Lyoté, Gallieni, mais aussi leur stratégie, mais même dans les documents officiels du ministère des armées ou de l'état-major des armées concernant notamment la stratégie, notamment de contre-insurrection, ces officiers sont énormément cités, ils sont cités en exemple, ils servent de référence. Et effectivement, ils alimentent le logiciel de l'armée française.
Alors, ce logiciel, vous avez donné l'interview le 6 janvier dernier dans Le Monde, où vous disiez en termes cash, parce que vous parlez cash, hein, ça n'y a pas de problème, que c'est un logiciel dépassé. Vous le démontrez tout au long de votre livre. Et il se trouve que, quelque part, un général vous répond. Dans les colonnes du Monde, dans la rubrique Idées, le 27 janvier, Bruno Clément Bollet, il répond en disant « Fini l'Afrique dominée, place à l'Afrique souveraine ». Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, c'est quand même assez curieux. Mmh. On est en 2023 et voilà. Un général de l'armée française, mais plus globalement, un certain nombre de responsables politiques et militaires se rendent compte qu'il faut, pour reprendre l'expression du général, rendre l'Afrique aux Africains. On est plus de 60 ans après les indépendances et en France, des gens commencent à se dire que, effectivement, c'est les Africains qui doivent gérer leur pays ou leur continent. C'est très curieux. En fait, ça veut dire beaucoup de choses sur l'état d'esprit des dirigeants français. Et à ce sujet-là, je renvoie à un article qui a été écrit par Thomas Deltombe sur le site Afrique 21, où il revient sur cette expression « l'Afrique aux Africains » et il démontre d'abord qu'elle n'est pas nouvelle, mais qu'elle est ressortie en France à chaque fois que la France a l'impression de perdre son influence dans son précaré. Et là, on le voit actuellement, effectivement, il y a la Russie qui vient concurrencer la France, mais à d'autres périodes, ce n'était pas la Russie, c'était le Royaume-Uni ou c'était d'autres pays ou les États-Unis. Et effectivement, à chaque fois, on ressort cet argument comme pour dire, en gros, quand on est quand la situation de domination de la France est menacée, pour dire non, mais c'est aux Africains de gérer leur destinée.
Voilà. Alors, en janvier 2013, Hollande, président de la République, lance l'opération Serval. C'est une guerre, d'après vous, et d'après plein d'observateurs, mais qui était marginalisée à l'époque. Je pense à l'association Survie. Je pense aussi à Nicolas Beau, ancien du Canard Enchaîné, qui a sorti un livre aux éditions Balland, un livre très critique qui s'appelle Papa Hollande au Mali, chronique d'un fiasco annoncé. Donc, il disait que c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Alors, un bilan à l'heure actuelle de 59 morts et des centaines de blessés. C'est bien ça?
Oui, côté français.
Côté français, bien sûr. On est toujours côté français, puisqu'on parle de l'armée française en Afrique. Et Hollande disait que la France n'avait pas vocation à rester au Mali à l'époque. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cette opération opaque de l'OPEX qui coûte 1 milliard en 2020, quand on explique qu'il n'y a pas d'argent magique pour financer les retraites et tout le reste, cette opération nous coûte 1 milliard.
Oui, alors en 2013, effectivement, François Hollande lance cette opération. Alors, sans rentrer dans tous les détails, ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est une demande qui est faite de la part du président par intérim malien à l'époque, parce qu'effectivement, les groupes djihadistes qui contrôle déjà une partie du nord du pays ont entamé un mouvement vers le centre du pays et le président par intérim malien demande l'aide de la France et la France ne se fait pas prier, elle intervient. Il faut savoir que les militaires avaient eux-mêmes établi des plans pour intervenir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
2009, du temps de Nicolas Sarkozy même.
Tout à fait. C'était en tout cas envisagé depuis un certain temps. Donc cette intervention, elle a lieu, elle a une forme de légitimité parce que l'ONU donne l'appui à cette intervention, parce que le Mali l'a demandé. Mais en fait, très vite, dans le discours des responsables politiques français, c'est de dire on ne va pas rester là longtemps. On est là pour répondre à une demande d'urgence au Mali, mais on ne restera pas. Et au bout de 3 mois, François Hollande et ses ministres annoncent qu'il y aura un retrait des troupes françaises et ils annoncent qu'il n'y aura plus que 1000 soldats d'ici à la fin de l'année 2013. Fin 2013, il y a beaucoup plus que 1000 soldats, et même à l'été 2014, François Hollande annonce non pas la fin de l'opération Serval, mais sa transformation en opération Barkhane, une opération qui voit son champ de compétences s'élargir, puisqu'elle intervient cette fois non plus seulement au Mali, mais dans 5 pays de la région sahélienne, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et cette guerre va durer des mois, des années. On va arriver à un maximum de 5200, 5300 soldats. En 2021, c'est le nombre de soldats français qui opèrent dans cette zone. Et en fait, la grande question, c'est pour quelle raison, alors qu'il avait annoncé le retrait, François Hollande a décidé de poursuivre cette opération et de garder un contingent très important de soldats français dans la zone.
Et de fusionner Épervier, qui était une vieille opération avec Serval, et de donner Barkhane, le nom de Barkhane.
Tout à fait.
Voilà. Donc, ça, vous l'expliquez très bien dans les chapitres de votre livre, les premiers chapitres de votre livre. Et vous expliquez aussi par des mythes plein la tête et une espèce de storytelling très bien décrypté. On nous a vendu cette guerre.
Oui, on nous l'a vendu parce que, au-delà de ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire il y a une forme de légitimité du point de vue du droit international à ce que l'armée française intervienne au Mali, il faut vendre cette guerre, entre guillemets, à l'opinion publique française. Et parmi les arguments mis en avant auprès de l'opinion publique française, le plus important, c'est de dire les djihadistes descendaient sur la capitale, Bamako, ils voulaient prendre le contrôle de la capitale et de l'ensemble du pays. Capitale où vivraient 6000 ressortissants français. Bon. Évidemment, de ce point de vue-là, c'est difficile de dire « Ah non, il ne fallait pas intervenir. Si les djihadistes, ils risquaient d'aller tuer des Français, ils risquaient d'aller prendre des otages, et puis ils risquaient effectivement de prendre tout un pays en otage quelque part. » Sauf que dans la réalité, il est vrai que les troupes djihadistes occupaient déjà une partie du nord du Mali, mais par contre, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il visait la capitale Bamako. Et moi, au cours de mes enquêtes, mais je ne suis pas le seul à l'avoir démontré, d'autres journalistes ou chercheurs l'ont démontré, j'ai pu déterminer que, visiblement, il ne visait pas Bamako, il visait par contre la ville de Mopti. Les deux villes jumelles de Mopti-Sévaré, qui se trouvent au centre du pays, ils étaient à une centaine de kilomètres avant qu'ils fassent mouvement dans le de Mopti-Sévaré. Et cette ville, notamment de Sévaré, est intéressante parce qu'il y a un aérodrome, un aéroport, et c'est considéré comme un nœud stratégique assez important. À l'évidence, ils voulaient prendre cette ville par un intérêt stratégique. Mais rien ne démontre qu'ils voulaient prendre Bamako. Par contre, tout de suite, le discours qui a été vendu aux Français par les autorités politiques, ça a été de dire « ils veulent prendre la capitale Bamako, il faut intervenir ».
Alors, l'intervention est faite. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas spécialement spécialiste des armées à l'époque en 2013. Vous êtes ce qu'on appelle un journaliste embarqué. Donc, vous n'avez pas, entre guillemets, d'a priori sur cette opération. Et vous nous racontez l'histoire de cette pancarte. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette anecdote ?
Oui, tout à fait. Effectivement, alors moi, je me rends au Mali. À l'époque, je suis journaliste. Je couvre notamment l'actualité du Sénégal, du Burkina Faso. Donc, indirectement, je m'intéresse forcément à ce qui se passe au Mali. Mais je n'y suis venu qu'une fois. Je ne connais pas très bien ce pays. Et lorsque l'opération Serval est déclenchée, je me rends au Mali. Et je suis notamment à Bamako. Lorsque François Hollande vient à Bamako, on est le 2 février 2013. Les principales villes du nord du Mali ont été reconquise très rapidement par l'armée française. Et Hollande vient, prendre son bain de foule, vivre ce qu'il appellera comme le plus beau moment de sa vie politique, puisqu'effectivement, il est acclamé par les Maliens, avec des drapeaux français qui volent au vent, à côté des drapeaux maliens. Et là, sur la place de l'indépendance, c'est assez cocasse de rappeler le nom de la place, à Bamako, je vois une pancarte, merci Papa Hollande et Tonton Le Drian et Tonton Fabius, qui sont à ce moment-là le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. Et là, effectivement, moi qui suis sans a priori, et j'ai même plutôt tendance à ce moment-là à me dire qu'il fallait peut-être effectivement cette intervention militaire, je me dis... Là, il y a quand même un souci. On est au Mali, un pays qui est quand même très jaloux de son indépendance, qui est un des pays qui a quand même, c'est parmi les anciennes colonies françaises, qui a essayé de s'émanciper à un moment donné de la tutelle française, contrairement à d'autres pays comme le Gabon ou la Côte d'Ivoire, qui ont toujours fait figure de centre névralgique de ce qu'on appelle la France-Afrique. Le Mali était quand même plutôt en périphérie, en fait, de la France-Afrique. Et là, je me dis... Je connais pour le coup cette histoire et je me dis il y a quand même un souci. Et en fait, je raconte cette anecdote dès le début de mon livre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça explique en grande partie la raison de l'échec de la France dans cette région. Et François Hollande en avait été prévenu avant même de lancer l'opération. Des diplomates.
C'est ça qui est grave. Ce que vous dites là est très grave.
Des diplomates lui avaient dit attention, c'est le Mali, c'est une ancienne possession coloniale. Une intervention militaire de l'armée française, ça peut marcher un temps court, mais ça ne pourra pas marcher très longtemps, les gens ne l'accepteront plus. Et ça, c'est aujourd'hui l'élément clé, on le voit aujourd'hui, les gens ne l'acceptent plus. Parce que l'armée française est restée bien trop longtemps dans cette guerre, où elle, au bout d'un moment, elle n'avait plus de rôle positif à jouer.
Voilà. Alors, parlez-nous de Fabius et de Le Drian. Présentez-les-nous, parce que ce sont des personnages clés de cette machinerie qui a abouti à cette guerre éclair à l'époque, qui s'enfonce ensuite. Je voudrais que les auditeurs connaissent très peu Le Drian, parce qu'on en parle très peu dans l'actualité française. Mais bon, le Fabius, c'est l'affaire du sang contaminé, c'est tout ça. Mais ils ont tous les deux joué un rôle prépondérant, si j'ose dire, de premier plan.
Oui, Fabius, à l'époque, est ministre des Affaires étrangères de Hollande. Mais en fait, l'Afrique ne l'intéresse pas. Lui, il s'intéresse à d'autres dossiers plus importants à ses yeux. Et Le Drian, lui, est le ministre de la Défense. Et lui, il s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et en fait, très rapidement, Le Drian va... récupérer les dossiers africains qui devraient échoir normalement au Quai d'Orsay et ça va devenir quelque part une chasse gardée des militaires. Et ça aussi, je l'explique dans mon livre, comment, très rapidement, en 2013, comment finalement le ministère de la Défense prend le leadership sur la stratégie adoptée, non pas seulement du point de vue militaire, mais aussi du point de vue diplomatique et même politique de la France dans cette région. Et Le Drian va jouer un rôle majeur durant toutes ces années, et pas seulement au Sahel, puisqu'il va aussi s'accoutiner
Al-Fatah Sissi. Le président d'Égypte,
oui, bien sûr,
l'actuel,
mais aussi Denis Sassou Nguesso, l'autocrate à la tête du Congo, Idriss Déby, l'autocrate à la tête du Tchad. Il va se reprocher de tous ces chefs d'État, qualifiés d'infréquentables au début du mandat de François Hollande.
Oui, et d'ailleurs, Hollande ne voulait pas les rapprocher.
Au début.
Ça, faut s'approcher d'eux. Il rencontrait leurs opposants plutôt que...
Tout à fait.
Il avait promis dans sa campagne d'abolir, comme Nicolas Sarkozy, d'abolir la France-Afrique.
Oui, tous les chefs d'État, tous les candidats à la présidence l'affirme, et puis finalement aucun ne met cela en œuvre. Mais de fait, la guerre de la France au Mali a joué un rôle d'accélérateur
Ils ont déroulé le tapis rouge à tous ces autocrates.
Tout à fait. Déby, qui était persona non grata à Paris, est devenu l'allié incontournable.
Il a envoyé 2000 personnes quand même pour combattre aux côtés des Français. Il faut le savoir.
Oui.
Alors, il y a aussi une militarisation de ce qu'on a appelé l'AFD, qui est très bien expliqué dans votre ouvrage. Est-ce que vous voulez expliquer à nos auditeurs avant la pause musicale?
Oui, ça relève de la même évolution, c'est-à-dire que l'AFD, donc qui est l'Agence française de développement, qui est, on va dire, le bras financier de l'aide au développement de la France,
notamment payé avec nos impôts,
notamment en Afrique. L'AFD, donc, petit à petit, a quelque part dû jouer un rôle dans cette guerre. Alors évidemment pas sur le plan des opérations militaires, mais on a demandé, l'exécutif a demandé à l'AFD de se rapprocher de l'armée pour mener des actions de développement dans les zones où intervenait l'armée française. Ça a été très mal vécu hein, par un certain nombre d'agents de l'AFD qui, eux, estiment qu'ils sont là pour faire de la coopération ou du développement, pas pour soutenir une opération militaire, mais ça a été défendu ardemment par le chef, le patron de l'AFD, qui est Rémy Rioux, donc qui a été nommé sous Hollande et puis qui est maintenu sous Macron. Et en fait, il y a même eu des échanges de personnes, c'est-à-dire que l'AFD a envoyé un de ses représentants au niveau de l'état-major de l'opération Barkhane, N'Djamena, et un représentant du ministère de la Défense pouvait participer aux réunions de l'AFD sur les sujets concernant le Sahel. Et effectivement, on a assisté quelque part à un drôle de mariage entre le monde de l'aide au développement, qui est en général très éloigné de celui de la chose militaire, et donc l'armée française.
Bien. Alors, nous allons faire une pause et ensuite nous allons revenir sur votre chapitre 3, qui est essentiel, qui est même un pivot dans votre livre, et qui s'intitule « La faillite des élites maliennes ». auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission où nous avons comme invité Rémi Carayol pour son livre « Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après », édité à La Découverte. Alors Rémi, après avoir présenté l'opération Serval et Barkhane, nous allons parler de la faillite des élites maliennes. Alors, le pouvoir mandingue, qu'est-ce que c'est ? Vous allez faire un résumé.
Oui, je vais essayer, ça, c'est pas facile.
Et présenter votre confrère décédé, Adam Thiam, qui était apparemment un respecté de la presse, dont j'ai lu certains articles. Et nous allons faire un focus sur l'affaire ATT et Air Cocaïne.
Oui, alors, Adam, effectivement, qui est décédé il y a quelques mois, malheureusement, était un grand journaliste malien, qui était respecté vraiment de tous, parce que, tout simplement, il faisait son travail correctement, et il avait une finesse d'analyse qui était très rare, et puis c'était surtout quelqu'un de très généreux, très ouvert, et qui accueillait notamment les journalistes comme moi, qui découvraient le pays, et qui essayaient de leur expliquer. C'est lui qui m'a parlé de cette expression, le pouvoir mandingue, en me retraçant un peu l'histoire du Mali, et il regrettait régulièrement que, en fait, la communauté, on va dire les communautés du sud du Mali est dans l'histoire du pays souvent négligée de prendre en compte les demandes ou les revendications des habitants du nord, du centre ou du nord du Mali. Et ça expliquait en partie la situation dans laquelle on se trouve depuis une dizaine d'années. Parce que, effectivement, il y a une sorte de
polarisation.
De polarisation, oui, de d'enjeux d'ordre politique et économique et qui dérive parfois sur des aspects d'ordre communautaire et qui aujourd'hui ont abouti finalement en partie à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On sait que la crise au Mali est partie du nord, mais qu'elle a très vite descendue, qu'aujourd'hui le gros des violences se situe dans le centre du Mali, et qu'il y a des enjeux d'ordre, encore une fois, politique et économique, mais qui sont dans les discours, dans certains discours politiques, exploités comme des enjeux d'ordre communautaire. Et ça, c'est l'une des raisons qui font que les violences ne sont pas seulement commises, par exemple, par les groupes djihadistes, mais elles sont aussi commises par les armées nationales qui visent certaines communautés.
Et les milices. On va les présenter dans cette partie. Alors, je voudrais que vous présentiez les deux présidents que j'estime les plus emblématiques de cette dérive et de cette faillite des élites maliennes, ATT et Ibeka.
Alors Amadou Toumani Touré,
dit ATT.
Oui, ATT a été donc était le président depuis 2002. Il a joué un rôle important au Mali parce que lors de la chute de la dictature de Moussa Traoré, c'est l'un des officiers qui est à la tête du coup d'État. Alors c'est un coup d'État, mais qui suit une insurrection populaire. Mmh. Donc quelque part, il a joué un rôle dans la démocratisation du Mali. Ensuite, il s'est retiré et puis il a été élu. Et donc en gros, durant la décennie des années 2000, c'est lui qui est au pouvoir et il a une responsabilité dans une des dérives majeures du Mali, qui est celle de la corruption. Son régime était corrompu et surtout a laissé tous les milieux être corrompus. Et lorsque les groupes djihadistes commencent à s'installer dans le nord du Mali, c'est lui qui est président à ce moment-là et il ne fait pas grand-chose contre ça. Alors, il avait ses raisons, les raisons qu'il expliquait notamment aux Américains, aux Français qui pouvaient le lui reprocher. Il disait, mais nous, il ne nous menace pas.
Il ne menace pas nos intérêts.
Il ne menace pas nos intérêts.
Qui sont des narco-intérêts, plutôt.
Oui, pour le régime ATT, c'était des narco-intérêts, puisqu'effectivement, le régime était, en tout cas, des responsables de ce régime, étaient trempés dans le trafic important dans le narcotrafic, qui est très important, notamment de la cocaïne, qui venait d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, qui transitait par le Mali pour ensuite rejoindre soit les Émirats, soit l'Europe. Vous en parliez tout à l'heure, il y a une affaire qui a défrayé la chronique en 2009, c'est l'affaire dite d'Air Cocaïne. Il faut savoir quand même que c'est un gros porteur, qui vient d'Amérique centrale et qui se pose dans le désert malien, avec évidemment la complicité d'élus locaux, mais aussi de responsables sécuritaires et politiques basés à Bamako, parmi lesquels des gens très proches du président ATT. Et donc, cet avion s'est posé, chargé de cocaïne. La cocaïne a été récupérée donc, par une noria de véhicules qui ont ensuite amené la marchandise, qui sont allés vers le nord pour que la marchandise, a priori, rejoigne l'Europe. Donc, effectivement...
L'avion a été brûlé
parce qu'il aurait pu... l'idée, a priori, c'était qu'il redécolle, mais il y a eu un problème technique. Donc, il a été brûlé. C'est dire quand même les intérêts économiques majeurs en jeu dans ce genre de trafic. Ils sont capables quand même de se délester d'un avion gros porteur. C'est énorme.
C'est énorme. Et donc, une enquête, scandale, et on découvre au fil du temps, vous l'expliquez bien dans votre ouvrage, que tous les gens dans l'entourage d'ATT sont libérés petit à petit, discrètement, mais ils sont libérés de toute façon.
Oui, certains sont emprisonnés, mais rapidement, en catimini, la plupart du temps, ils sont libérés d'une manière ou d'une autre. Et finalement, personne n'a jamais été jugé dans cette affaire.
Voilà. Alors, vous dites que dans la faillite des élites maliennes, donc, il y a le problème de certains présidents. On va en venir à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Descendant de Soundiata Keïta, en ligne directe. Voilà. Et il y a surtout le problème des milices. Alors, venons-en à la présentation d'Ibeka.
Ibeka, donc, est une figure de la politique malienne depuis les années 90. Il fut Premier ministre dans les années 90. Et c'est lui qui est élu en 2013. En gros, 6 mois après le déclenchement de l'opération Serval, une élection présidentielle est organisée parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'est un président par intérim qui est à la tête du Mali parce qu'il y a eu un coup d'État l'année d'avant contre ATT, précisément. La France... pour le coup, impose son agenda, elle veut des élections au plus vite, parce qu'elle veut avoir affaire à un président, entre guillemets, légitime, ayant en tout cas la légitimité des urnes. Donc, elle accélère le processus, alors qu'un certain nombre d'observateurs estiment qu'il faudrait peut-être un peu attendre, et donc le Mali organise des élections qui sont remportées par Ibeka, qui est alors le candidat préféré de la France. Alors, c'est pas la France qui l'a fait élire, les Maliens ont voté pour lui, il avait beaucoup de moyens aussi durant cette campagne, mais...
On a découvert après d'où venaient les moyens, c'était de la Corse-Afrique, ou de Michel Tomy.
Oui, il était lié à Michel Tomy, qui est
le dernier parrain de la Corse.
Qui est considéré effectivement par la police française comme le dernier parrain de la Corse, et qui a des grands intérêts en Afrique centrale essentiellement.
Mais parce aussi qu'il était associé à l'époque à un certain Félix Chiagi, qui a été abattu de 2 balles dans le dos en Corse.
Oui, et tous deux ont fait fortune en Afrique en lançant les PMU et en construisant des casinos.
Voilà.
Alors essentiellement en Afrique centrale, mais aussi au Mali, puisqu'il y a un casino qui appartient à Michel Tomy en Bamako, casino qui a été ouvert dans les années 90, précisément au moment où Ibeka était Premier ministre. Donc Ibeka est élu en 2013 et... il s'est présenté durant la campagne comme étant l'homme fort, l'homme qui allait redonner au Mali sa souveraineté, qui allait permettre à l'armée de retrouver son lustre d'antan, si l'on peut dire. La France y a cru, beaucoup de Maliens y ont cru. Sauf qu'au final, ça s'est avéré être un échec absolu. Non seulement Ibeka était incapable de répondre à ses propres promesses, mais en plus, il n'a rien fait pour mettre fin à la corruption du régime précédent, et au contraire, son régime a lui aussi été entaché par un grand nombre de scandales politico-financiers, y compris jusqu'à son fils, Karim Keïta.
Voilà. Alors son fils, c'est un dossier pour lequel il a une fiche Interpol. C'est la disparition de votre confrère, Birama Touré. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots sur cette affaire ?
Oui, Birama Touré était un jeune journaliste qui, à l'époque, enquêtait sur des affaires
politico-financières
et notamment impliquant Karim Keïta. Karim Keïta, donc le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta, député important de la majorité. Et Birama Touré, un jour, alors je ne me rappelle plus exactement l'année, je crois que c'est en 2016, mais il faudrait que je puisse vérifier.
2016.
Disparaît. Et on a pu retrouver
sa trace.
Et selon de nombreuses sources, il serait mort, mais on l'ignore puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Il aurait été arrêté par des policiers, il aurait été amené dans les geôles de la sécurité d'État, qui est l'équivalent de la DGSE en France, et là, il aurait été torturé et probablement exécuté. Il se trouve que Birama Touré, donc, enquêté sur des affaires impliquant Karim Keïta, notamment sur des affaires de détournement de fonds dans le cadre de contrats d'armement. Le grand enjeu du gouvernement qui est élu en 2013, c'est de redonner à l'armée les moyens de se battre. Et pour cela, énormément de fonds sont débloqués, que ce soit par l'État malien, mais aussi par tous ses partenaires étrangers. Et il se trouve que nombre de ces fonds seront détournés.
Via les paradis fiscaux.
Notamment pour permettre à un certain nombre de personnes issues du monde militaire ou du monde politique de s'enrichir.
Voilà. Bien. Alors maintenant, on va revenir sur ce qui est essentiel pour comprendre Barkhane et Serval. C'est la catégorisation des djihadistes. Vous avez fait la liste dans votre ouvrage et vous avez fait aussi la légende, le mythe des narco-djihadistes. Ça, c'est très important pour l'expliquer à nos auditeurs qui lisent la presse et qui vont se dire « mais il y a du narco partout dans ces affaires ». Alors, revenons là-dessus, s'il vous plaît.
Oui, alors en fait, les groupes djihadistes sahéliens sont présentés souvent en France comme étant des acteurs majeurs du narcotrafic dans cette zone. Et ça, depuis le début, en fait, depuis le début des années 2010, on veut absolument, quand je dis on, ce sont ceux qui informent notamment les journalistes, et notamment des sources au niveau des services de renseignement, qui veulent absolument faire passer l'idée selon laquelle ces djihadistes ne sont pas finalement des gens qui défendent une vision du monde, une vision religieuse du monde, puisque la preuve, c'est qu'ils trempent dans le narcotrafic, alors que normalement, selon leur vision du monde, tout cela devrait être interdit. Alors, quelle est la part des choses? La réalité, c'est qu'effectivement, lorsqu'ils se sont implantés au Mali dans les années 2000, la plupart venaient d'Algérie, les djihadistes ont essayé de s'implanter dans le tissu économique et social. Pour cela, ils se sont mariés avec des femmes issues de différentes communautés. C'est un moyen de créer des liens. Mais aussi, ils sont effectivement participés à des convois, sécurisés des convois, notamment de drogue. Mais à aucun moment, ils n'ont été les principaux acteurs de ce trafic. Disons qu'ils ont joué un rôle de sécurisation pour toucher un peu d'argent et pour leur permettre, quelque part, de se développer.
Parce que le gros de leur argent, ça a été la rançon des otages.
Au début, oui.
Voilà. Et il faut savoir que les acteurs majeurs du narcotrafic, ce sont les autorités politiques du pouvoir mandingue. Et ça, il faut le dire.
En fait, tout aujourd'hui au Mali, dans le narcotrafic, on retrouve à peu près toutes les sphères de pouvoir, que ce soit du pouvoir national, mais aussi de pouvoirs locaux dans ce trafic. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gens haut placés au niveau de l'état-major, au niveau du gouvernement, au niveau de la haute administration, mais on a aussi les principaux, beaucoup d'élus locaux, de notables locaux, de chefs de guerre locaux. Tous sont plus ou moins impliqués dans ce narcotrafic. Et y compris, effectivement, quelques djihadistes qui ont pu jouer un rôle. Mais là, ce que j'essaye de battre en brèche dans mon livre, c'est que d'abord, ils ne sont des acteurs que mineurs dans ce trafic, les djihadistes. Et ensuite, si on veut effectivement employer cet argument de dire c'est des méchants puisqu'ils trempent dans le trafic de drogue, alors commençons d'abord par évoquer ceux qui jouent un rôle premier dans ce trafic, à savoir les responsables politiques, militaires et administratifs du Mali.
Alors, vous dressez un portrait fiable, et ça m'a vraiment plu dans votre ouvrage, de ceux qui viennent dans ces groupes. C'est pas des fous de Dieu, vraiment. C'est un projet purement politique. Ils sont guidés par les circonstances. Et ça, vous le dites, page 98. Et vous précisez, quand on est faible, on rejoint un qui est plus fort. Est-ce que vous pouvez expliquer à mes auditeurs comment des jeunes en sont arrivés malgré eux, quelque part. Ils n'ont pas eu le choix de rejoindre ces groupes djihadistes.
Alors, effectivement, pour la plupart, ils n'ont pas eu le choix. Ou alors, quand ils ont fait ce choix, ils l'ont fait de manière plus ou moins inconsciente. Ou voilà. Au gré de rencontres hasardeuses. Je vais vous donner l'exemple, moi, d'un jeune homme que j'ai rencontré, qui a combattu dans le groupe djihadiste pendant quelques mois et qui ensuite a décidé
de fuir,
je dis bien, en se cachant, parce que s'il est retrouvé, il est tué. Et il m'a expliqué son parcours, en fait. Alors d'autres m'ont expliqué, mais celui-ci me semble particulièrement illustratif de nombre de destinées, finalement, de ces jeunes combattants. C'était un jeune qui avait l'ambition de rejoindre l'Europe, comme beaucoup de jeunes de cette région, mais qui n'avait pas d'argent. Et un jour, il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais il en discute avec lui, il lui dit « Moi, j'aimerais bien prendre la route pour l'Algérie ou la Libye pour ensuite rejoindre l'Europe. » Il lui dit « Mais viens, rejoins-nous, je suis dans un groupe où tu pourras un peu gagner d'argent et où on pourra t'aider à prendre la route ensuite. » Ce jeune, à ce moment-là, il a 15 ans. C'est un enfant. Et donc, il rejoint ces groupes et là, il se rend compte, une fois qu'il est arrivé dans la base du groupe, que c'est un groupe armé, que c'est un groupe djihadiste. Et là, il va apprendre le maniement des armes, qu'il n'avait jamais manié auparavant. Il va suivre quelques cours de religion. Et puis, petit à petit, il va participer à un certain nombre d'opérations des groupes djihadistes. Mais lorsque je l'ai rencontré, il m'a avoué avoir une fois usé de son arme. Et il ignorait s'il avait tué la personne sur laquelle il avait tiré, mais il m'avait admis avoir tiré sur cette personne. Il le faisait et il était très visiblement marqué par cette épreuve, en fait. Si je raconte cette histoire, c'est pour expliquer que, effectivement, dans ces groupes djihadistes, il y en a un certain nombre, un petit nombre, qui rejoignent parce que ce sont, comme on dit, des fous de Dieu, qu'ils veulent imposer une vision très stricte de la religion. Mais la plupart sont des jeunes hommes qui rejoignent soit par hasard, quelque part, comme le destin que je viens de rencontrer, soit pour d'autres raisons. Certains, c'est pour gagner un peu d'argent, d'autres, c'est pour se venger, puisqu'ils ont eu leur frère ou leur père qui a été tué par l'armée, par exemple. Ouais. Alors, on rejoint le groupe qui se bat contre l'armée par esprit de vengeance. D'autres le font pour se défendre. Il y a dans cette zone, finalement, ce sont des zones de non-droit. Mmh. Il y a des intérêts économiques importants. Je pense notamment aux gens qui ont du bétail, qui se font voler leur bétail. Pour se défendre des bandits qui volent le bétail, ils rejoignent un groupe, et notamment parfois un groupe djihadiste, pour bénéficier quelque part de leur protection. Tout ça fait que les groupes djihadistes recrutent très facilement dans ces zones, mais que la plupart de ces combattants qui sont tués par les armées nationales ou par l'armée française, finalement, sont des jeunes qui auraient mérité d'avoir une seconde chance parce qu'ils sont, pour employer un terme que j'aime pas trop, mais qui sont tout à fait récupérables. Il n'y a même pas besoin de faire un travail de désendoctrinement. Ils ne sont pas endoctrinés.
Ça, c'est... Je vous remercie pour ce travail que vous faites dans votre livre. Alors, par contre, quand vous parlez de recrutement opportuniste, voilà, et vous expliquez aussi qu'en face, vous avez un patron de la DGSE, Bernard Hermier, qui sème du vent, par exemple, pour désinformer à tout va. Vous pouvez en dire un petit mot ?
Oui, la scène se passe début 2021. Alors, il se trouve que début 2021, on assiste à un phénomène en France. L'opération Barkhane, qui n'était jusqu'à présent jamais critiquée, jamais questionnée, commence à être critiquée, que ce soit par certains partis politiques, mais aussi au niveau de l'opinion publique, où même si c'est un enjeu vraiment minime pour la plupart des gens, on commence à se dire, mais que font nos soldats sur place, en fait ?
C'est surtout les morts.
Parce que effectivement, il y a quand même,
vous
l'avez dit tout à l'heure, 59 soldats qui ont été tués français, c'est loin d'être négligeable, c'est beaucoup.
C'est énorme.
Sans compter toutes les victimes qui sont blessées, mais qui le resteront jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, l'exécutif français sent le vent un peu tourner. Et à cette époque, il n'est pas question d'arrêter l'opération Barkhane. Il faut continuer. Donc, il faut expliquer aux Français pourquoi on continue cette guerre. Et là, c'est là qu'intervient Bernard Hermier, qui d'habitude ne fait que très rarement de déclarations publiques. Il intervient pour dire publiquement que si l'on se bat au Sahel, c'est parce que ces groupes djihadistes nous menacent, nous, Français, directement sur notre sol. Et il explique qu'il y a un risque d'attentat mené par ces groupes sur le sol français. Or, non seulement jamais ces groupes n'ont mené d'attaque sur le sol français, mais en plus, de ce que j'ai pu apprendre, mais de ce que d'autres confrères journalistes ont essayé de savoir, jamais il n'y a eu d'attaque déjouée de la part de ces groupes djihadistes. Et d'ailleurs, dans leur communication, ces groupes djihadistes le disent. Ils disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe chez nous. On demande à la France de partir, de nous laisser, nous, entre Maliens, entre Nigériens, entre Burkinabés, s'occuper de nos affaires. On demande à la France de partir.
L'Afrique aux Africains.
Oui, ils ne le disent pas comme ça, mais quelque part, c'est un peu leur discours. Et en tout cas, et c'est là que Bernard Rémy intervient pour dire non, attention, ils sont une menace pour nous. Rien ne le démontre.
Bien. Merci Rémy. Nous allons faire une pause et nous allons revenir en dernière partie pour parler de l'après Serval et Berkane.
Thank you. are your goals? To pas fait c'est bête, oh Milo Malo. If you want cook soup, now what are your goals? To be bang bono, oh Milo. If your head is hot, now what are kukulam? Tomo bandaba, oh Milo Malo. A child they grow, water him go is. If water kill your child, now water you go is. Tell me back, mama, why oh, me not no malo. Cause someone to leche, call malo me oh, nothing without water. Cause someone to leche, call malo me oh, oh me you not.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde, nous sommes dans la dernière partie de l'émission avec Rémi Carayol pour parler de son ouvrage passionnant, Le Mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval Barkhane et après, édité aux éditions La Découverte. Alors, Rémi Carayol, nous allons tondre la pelouse.
Oui, on peut essayer. On va essayer d'expliquer de quoi il s'agit.
Oui, s'il vous plaît.
Ouais. Alors, c'est une expression de l'armée française qui a été maintes fois utilisée. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique quand on nous parle en off. Tondre la pelouse, en quoi ça consiste? L'idée, c'est assez basique. C'est, bah, comme l'image le laisse penser, c'est de tuer alors, le plus de combattants possible, mais surtout de tuer les chefs. D'éliminer les chefs en espérant qu'en les éliminant, la pelouse ne repoussera pas derrière. C'est-à-dire qu'ils ne seront soit pas remplacés, soit ils seront remplacés, mais dans un contexte de division de ces groupes, et donc ce qui permettra de les affaiblir. C'est la stratégie qui a été adoptée par l'armée française pendant des années au Sahel, mais qui n'a pas fonctionné. Ils ont tué, effectivement, régulièrement, on pouvait voir des communiqués chantant les louanges de l'armée parce qu'elle avait tué un chef djihadiste par-ci, tué un chef djihadiste par-là, sauf qu'on s'est rendu compte à chaque fois que non seulement ces chefs étaient remplacés par des chefs tout aussi compétents, que les groupes n'étaient pas fragilisés plus que ça, sauf durant quelques semaines, et encore. Et surtout, et c'est là où c'est plus grave, c'est que parfois, ils étaient remplacés par des chefs qui étaient encore plus violents que les précédents. L'exemple le plus typique, c'est lorsque l'armée française annonce la mort probable de Mokhtar Belmokhtar, qui était un des chefs historiques du djihad au Sahel, qui a été tué en Libye. Alors, elle pense que son groupe, ça y est, c'est fini. Sauf que qui prend la relève, c'est Adnan Abou Walid al-Sarraoui. Et ce al-Sarraoui, non seulement va continuer le combat de Belmokhtar, mais il va même le radicaliser quelque part, puisque son groupe va commettre énormément d'exactions contre des civils, énormément de massacres, de masse. Mais en plus, il va rejoindre l'État islamique. À l'époque, les groupes djihadistes au Sahel sont quasiment tous liés à Al-Qaïda. Mmh. Lui, il va faire le choix de rejoindre l'État islamique. Et on sait, dans cette zone, notamment, qu'aujourd'hui, l'État islamique est un groupe ultra-violent, qui n'a pas de projet politique, qui mène des opérations de prédation. Contrairement donc, aux groupes qui sont liés à Al-Qaïda, où eux, ils proposent il propose un modèle de gouvernance alternatif. Alors, basé aussi sur une forme de violence. Il ne s'agit pas de nier cela, mais par contre, qui est basé aussi sur une volonté de séduire les populations, ce que ne fait pas l'État islamique. Donc tout ça pour expliquer que cette stratégie de tondre la pelouse a été un échec, en fait. Et elle pose en plus d'autres problèmes d'ordre juridique.
Et moral.
Et moral, puisque, en fait, elle consiste à faire ce que l'on pourrait appeler tout simplement des assassinats ciblés.
Oui, d'après une kill list, vous le dites bien dans votre livre, et HVT et HIT,
oui,
les opérations HOMO.
HVT, c'est High Value Target en anglais, donc ce sont des cibles de haute valeur, donc ce sont les chefs. Et effectivement, dès 2013, une kill list, c'est-à-dire une liste de personne à tuer, est établi. L'Élysée en dispose d'une liste. Moi, je l'ai vue, mais par hasard total, lorsque je me trouvais dans une base militaire de la France au Sénégal, je suis tombé un peu par hasard sur cette liste. Effectivement, on voyait dans les photos des principaux chefs djihadistes reliés les uns aux autres, comme une sorte d'arbre généalogique, en fait. Et sur certaines photos, il y avait une croix rouge. Ça veut dire que c'était ceux qui étaient tués. Et puis les autres, eh ben, ils restaient à tuer, quelque part. Et en off, les militaires ont toujours admis, mais ce qu'ils ne font pas officiellement, mais en off, ils ont toujours admis qu'effectivement, leur stratégie, c'était pour ces personnes-là de les tuer, et non pas forcément de les arrêter pour ensuite les juger.
Oui, les neutraliser dans les opérations HOMO, c'est-à-dire homicide. Alors, dans votre chapitre sur le côté obscur de la force, vous parlez des bavures de sous enquête de la MINUSMA, de l'armée française. Et il y en a une qui a retenu l'attention, parce que vous y êtes, si j'ose dire, à l'origine de son information et de son relais médiatique. C'est l'enfant de 8 ans tué et enterré incognito.
Oui, ça se déroule le 30 novembre 2016, dans le nord du Mali, dans une zone très reculée, où les groupes djihadistes sont actifs et où l'armée française mène régulièrement des opérations. C'est une zone qui est habitée par des nomades, en fait, donc, qui vivent dans des campements et qui se déplacent au gré des besoins. Et ce jour-là, l'armée française est informée qu'il y a des groupes des combattants djihadistes qui sont en mouvement et qu'il y aurait des guetteurs qui leur donneraient des renseignements, notamment sur les positions de l'armée française. Et des soldats français qui se trouvent dans un hélicoptère voient cet enfant et lui tire dessus en estimant qu'il s'agit d'un de ses guetteurs qui donne des informations au groupe djihadiste. Il se trouve que cet enfant, donc un enfant de 8 ans, donc est mort sur le coup, visiblement, et que les habitants des campements au loin ont entendu des tirs, mais ils n'ont pas osé s'approcher de peur d'être considérés comme des djihadistes. Et dans l'après-midi, les tirs ont lieu le matin, et dans l'après-midi, ils voient les nomades du coin voient à nouveau un hélicoptère revenir, et puis au loin, ils voient les hommes, les soldats français s'affairer au sol, ils ne comprennent pas trop. Ils vont venir sur les lieux le lendemain, et là, ils vont découvrir le corps de ce jeune enfant, Issouf Al-Mohamed, qui avait été envoyé par ses parents pour récupérer les ânes de la famille pour mener des travaux de champêtre, si on peut employer cette expression, dans cette zone. Ce qui est particulièrement choquant dans cette affaire, il y a trois choses qui sont choquantes. D'abord, le fait de considérer qu'un enfant de 8 ans peut être un ennemi. Ça, c'est un vrai souci. Deuxième scandale, à mon sens, c'est de revenir sur les lieux et de l'enterrer en sachant, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a tué un enfant, une erreur peut venir, c'est une guerre. Aucune guerre n'est propre, on commet toujours des fautes dans une guerre. Mais une fois qu'on a commis une erreur, la moindre des choses, c'est de la reconnaître ou en tout cas d'en informer les familles des victimes. Voilà. Ils auraient pu aller dans les campements du coin et dire, voilà, et ramener le corps et expliquer qu'ils avaient commis une erreur. Ils ne l'ont pas fait, au contraire, ils ont essayé de cacher leur forfait. Et puis, le troisième scandale, c'est que l'armée française n'a jamais reconnu cette faute. Une fois que moi, j'ai sorti un premier article sur cette affaire, puis un deuxième article...
Ah oui, c'était savoureux, j'y ai assisté. En plein sommet, le jour du début du sommet France-Afrique à Bamako, vous sortez une information qui rend fou de rage Le Drian et Hollande, qui s'attendaient à être acclamés et qui se voient reprocher cette affaire.
Oui.
Il faut le faire.
Oui.
Bravo.
C'est de cette époque-là
que, dans mon logiciel, j'ai marqué Rémi Carayol à surveiller. Donc, quand votre livre est sorti, je me suis dit, c'est banco.
Pour être tout à fait honnête, c'était un pur hasard. C'est-à-dire que j'avais déjà sorti un premier article au mois de décembre qui avait été absolument pas repris par les autres médias français.
On se demande pourquoi.
Oui.
Mais vous l'expliquez.
Je l'explique, effectivement. Et qui avait suscité un communiqué très sibyllin, qui avait d'ailleurs très vite disparu du site web du ministère de l'Armée, où ils expliquaient que c'était un djihadiste. Voilà. Et je ressors un deuxième article le jour même de ce sommet, mais c'était un hasard, c'est juste parce que j'avais eu la confirmation d'une source onusienne que les Français avaient reconnu cette faute devant des responsables onusiens. Donc moi, j'ai sorti l'article. Il se trouve que par hasard, c'était le jour de l'inauguration de ce sommet. Le Drian et Hollande se trouvent à Bamako à ce moment-là et ils sont sommés, pour le coup, par la presse de s'expliquer sur cette affaire. Et effectivement, ils sont en foudrage parce que ça leur a un peu pourri le sommet qu'ils espéraient être à la gloire de la nouvelle politique africaine de la France. Mais j'aimerais quand même finir sur cette affaire parce que justement, Hollande, qui est sommé par les journalistes de répondre, dit il y a une enquête interne qui est menée et vous aurez les conclusions de cette enquête à la fin du mois, on est en janvier 2017, ou au mois de février. Les conclusions de cette enquête ont été rendues publiques en novembre de 2017, donc un an après les faits. Et encore, quand je dis rendues publiques, c'est au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère a expliqué que l'enquête interne avait démontré qu'il n'y avait eu aucune faute de la part des soldats français. Mais personne n'a eu accès au terme de cette enquête et au contenu de cette enquête. On ne sait pas pourquoi le ministère estime qu'il n'y a pas eu d'erreur qui a été commise et circuler, il n'y a rien à voir.
Tout à fait. Bien. Alors, on va revenir aussi sur la deuxième bavure, le mariage sous les bombes. qui est aussi emblématique. Parce qu'en fait, ces deux bavures sont plus emblématiques que la troisième, que vous, des jeunes à moto, les frappes signatures. Expliquez-nous en quelques mots, et puis après on va expliquer pourquoi maintenant il y a un après Barkhane et Serval, et pourquoi finalement quelque part les pays ont sommé la France de partir.
Alors, sur les frappes signatures, vous voulez que je développe ou sur le mariage ?
Le mariage,
oui.
Sur les bombes.
Alors, effectivement, donc, parmi les autres bavures que j'ai documentées au fil des années, donc il y a celle dont peut-être les auditeurs ont déjà entendu parler, c'est le mariage de Bounty, parce que pour le coup, ça a été très médiatisé. Donc, on est en janvier 2020. L'armée française frappe les alentours d'un village, le village de Bounty, qui est au centre du Mali. Et elles annoncent avoir neutralisé, c'est le terme de l'armée française, pour ne pas dire tuer, neutraliser un certain nombre de combattants djihadistes. Sauf que très rapidement, nous viennent de sources locales des informations selon lesquelles ce n'était pas du tout des djihadistes qui étaient réunis, c'était des hommes et des femmes, enfin, pour le coup, des hommes sur le lieu de la frappe, qui étaient réunis pour une cérémonie de mariage. Et effectivement, il y avait un mariage ce jour-là dans le village de Bounty. Les femmes étaient au village, elles préparaient à manger, tandis que les hommes étaient dans une zone boisée, donc à l'ombre, et ils discutaient à l'écart. Et non seulement des ONG, des médias ont démontré qu'il s'agissait bien d'une cérémonie de mariage, mais même l'ONU, dans un rapport très circonstancié, l'a documenté en disant qu'il s'agissait d'une cérémonie de mariage, et sur les 22 hommes qui ont été tués, 19 étaient des civils. 3, effectivement, pouvaient être éventuellement apparentés au groupe djihadiste qui contrôle la zone. Voilà. La France n'a jamais reconnu cette faute.
Ah, mais la France ne reconnaît jamais ses fautes.
Non.
Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au Rwanda.
Tout à fait. Donc ça, c'est pour Bounty. Et puis, la troisième bavure, on va dire, importante, comme vous l'avez dit, d'un point de vue symbolique, elle est très importante, c'est celle de Talataï, où effectivement, l'armée française a frappé sur une position où se trouvaient des jeunes qui étaient partis à la chasse. Ils chassaient, en fait. Et donc, ils avaient des fusils, ils étaient en moto, comme les djihadistes, effectivement, se déplacent en moto, ils ont des fusils, et ils ont donc été pris pour des djihadistes. Mais toutes les sources locales assurent qu'ils n'étaient pas membres des groupes djihadistes. Et c'est là où cette bavure, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce moment-là où moi, je me suis questionné, et je n'ai pas été le seul, une chercheuse aussi, qui s'appelle Rebecca Mignot-Madavi, spécialiste des questions liées aux drones et à la guerre antiterroriste des États-Unis notamment, on s'est questionné, on s'est demandé, mais est-ce que tout ça, ce n'est pas lié à des frappes signatures ? Alors, qu'est-ce que c'est des frappes signatures ? On mène des frappes aériennes contre des individus, non pas parce qu'on sait qu'il s'agit de telle ou telle personne et qu'elle joue un rôle dans les groupes ennemis, mais qui sont basées sur l'étude du comportement. C'est-à-dire qu'on estime que ce groupe d'hommes, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne connaît pas individuellement qui ils sont, mais par contre, on observe qu'ils ont un comportement qui ressemble à celui des groupes djihadistes. Suspect, comme on dit. Et sur la base de ce comportement suspect, on va frapper. Ça veut dire qu'on peut frapper des innocents. Ces frappes signatures ont été développées par les États-Unis, notamment au Pakistan, et elles ont abouti à énormément de victimes civiles. Énormément. Et en France, officiellement, la France ne mène pas ce genre d'opération. Mais après cette frappe de Talataï, on s'est demandé avec Rebecca Mignot-Madavi si on n'était pas dans une procédure de frappe signature. L'armée française ne l'a jamais reconnue, mais par contre, elle l'a implicitement reconnu par la voix de son chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui quelques mois plus tard, dans une interview accordée au Monde, a admis qu'après la frappe de Bounty et après la frappe de Talataï, ils avaient revu leurs règles d'engagement qui étaient plus strictes désormais. Et effectivement, depuis, on n'a plus eu vent de frappe qui pouvait s'apparenter à une frappe signature.
Bien. Alors, vous dites dans votre ouvrage que les armées engagées aux côtés de la France dans les opérations Serval et Barkhane, ont tué beaucoup plus que les groupes djihadistes.
Oui, ce sont des données statistiques qui sont notamment réunies par une ONG qui est considérée comme très sérieuse, qui est l'ONG ACLED, qui documente en fait toutes les victimes dans un conflit, dans les conflits du monde entier. En l'occurrence, sur le Sahel, ils mènent un travail très sérieux. Et quand on regarde leurs statistiques, année après année, on se rend compte qu'en général, les armées nationales du Mali, du Niger, du Burkina Faso, tuent parfois plus, parfois autant de civils que les groupes djihadistes. À cela s'ajoutent des milices, qui elles aussi jouent un rôle important dans, ces tueries. Et c'est un élément très très important, parce que quel est le discours de la France dans cette guerre ? C'est de dire qu'il faut que l'État revienne dans ces régions. Et notamment, par État, on entend l'armée. Mmh. Sauf que pour les populations locales, l'armée parfois est vue d'une manière beaucoup plus... est considérée comme prédatrice et est mal vue, bien plus mal vue que les groupes djihadistes. Mmh. Donc le retour de l'État, qui est quelque part un mantra de la part de toute la communauté internationale, il pose problème parce que c'est cet État justement qu'une partie des gens refuse désormais.
Mmh. Alors, puisque le Mali a demandé à la France de partir, le Burkina Faso a demandé à la France de partir, l'après, Rémi Carayeul,
il est en question. Alors, de toute évidence, aujourd'hui, l'opération Barkhane a été arrêtée. En novembre, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Ça ne veut pas dire la fin de cette guerre, puisqu'il y a encore aujourd'hui 3000 soldats stationnés en Afrique de l'Ouest pour participer aux opérations de lutte qu'ils appellent anti-terroristes. Il y a un millier de soldats à Niamey, il y a encore un millier de soldats à N'Djamena, il y a des soldats à Abidjan et Dakar, qui sont les deux bases historiques en Afrique de l'Ouest de l'armée, que la France n'a jamais perdu, même au moment des décolonisations. Et il y a même des postes avancés. On sait qu'il y a une présence de soldats désormais au nord du Bénin, parce que le Bénin est aujourd'hui menacé par des groupes djihadistes, dans diverses localités du Niger notamment. Donc la France est toujours en guerre, même si l'opération Barkhane a été arrêtée. La question qui se pose, c'est d'abord dans quel cadre, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'opération qui a succédé à l'opération Barkhane. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas eu de débat au niveau du Parlement, du coup.
Non, on s'en sera aperçu.
Voilà. Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, pour le coup, peu de personnes peuvent donner une réponse. On sait que la France veut rester. On sait qu'elle veut accompagner les armées nationales. On sait aussi que les autorités ont reconnu un certain nombre d'erreurs et qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus apparaître au premier plan, que les immenses convois qui étaient devenus très impopulaires ou que les énormes bases qui étaient devenues très impopulaires, ça, c'était fini, qu'ils ne pouvaient plus compter là-dessus. Donc, ils vont essayer d'être, ce qu'ils disent, discrets, en second plan. La question est de savoir comment tout ça va s'articuler avec les armées nationales et puis quel sera le rôle, par exemple, de la composante aérienne. Est-ce qu'elle va continuer à frapper ? Si oui, dans quelles circonstances ? Mm-hmm. Selon quelles règles d'engagement ? Tout ça, c'est un débat. Le gros souci, c'est qu'on a aujourd'hui 3000 soldats français dont la plupart sont stationnés dans un flou légal absolu.
Et on a surtout des gens qui veulent récupérer l'Afrique à leur profit, notamment la Russie et la milice Wagner. Est-ce que vous pouvez en dire un mot très vite pour nos auditeurs, parce qu'il nous reste très peu de temps ?
Oui, la milice Wagner, quelque part, a pris la place, entre guillemets, de la France au Mali. Lorsque le Mali a demandé à l'armée française de quitter son territoire, il a fait appel à cette milice qui est liée au pouvoir de Vladimir Poutine et qui joue un rôle, on va dire, officieux de force supplétive pour l'armée malienne. Le problème, c'est que la force Wagner a mené... beaucoup de massacres au Mali, comme elle en avait mené en Centrafrique, comme elle en a mené aussi en Libye, puisqu'elle est aux côtés du maréchal Haftar. Et donc, cette force est présente au Mali aujourd'hui, pour le plus grand malheur des civils. Et visiblement, peut-être que Wagner aimerait s'implanter également au Burkina Faso. Alors là, c'est loin d'être fait. Et moi, je ne suis pas certain qu'ils vont y arriver, parce que pour le Burkina Faso semble avoir adopté une autre stratégie, même si, eux aussi, ils ont demandé le départ des troupes françaises, qui va se réaliser dans quelques semaines.
Voilà. Alors, je rappelle le titre de votre livre, « Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ». C'est dans les cahiers libres des éditions La Découverte. Il coûte 22 €. Et vraiment, si on veut s'informer sur Serval, Barkhane et comprendre pourquoi la France est en guerre en Afrique, c'est le livre à lire cette année. Merci Rémi Carayeul d'être venu en parler dans notre studio.
Merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie. Chers auditeurs, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien. Pensez à vous.
La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Peinture rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes. Pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, car sur les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse tout de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qu'ils m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Can't be.